Bon, ok, ça paraît un super bateau. Mais je voudrais qu'on parle donc ce matin de la recherche du bonheur. Il fait chaud aujourd'hui, c'est l'été, profitons-en. D'ailleurs, on ne s'est pas rendu compte cet été que tous les jours que c'était l'été justement. Et souvent pendant les vacances, à la plage, à la maison, peu importe, eh ben on lit des livres. Et souvent justement, un certain nombre de livres sont assez voilà, très très bien vendus et beaucoup sont sur le thème du bonheur. Alors on peut voir sur le thème du bonheur, pardon, hop, le bonheur sans ordonnance. On aurait pu lire ce type de livre. On aurait pu lire également le chemin du bonheur. Faire le choix du bonheur. 8 étapes vers le bonheur. Plaidoyer pour le bonheur. Il est beau. Le bonheur selon Bouddha. Un peu pour les enfants aussi. Le grand livre du bonheur pour les enfants. Et pour les plus petits, Madame Bonheur. Sur Amazon, 27 978 livres ont le mot bonheur dans le titre. Et on nous propose tout un tas de solutions, de méthodes et d'outils pour être heureux. Qui n'aurait pas envie d'être heureux? C'est presque une question bête. Mais comment faire pour être heureux? Alors c'est vrai que le monde donc propose un certain nombre de solutions, mais ce dont je voudrais vous parler ce matin, c'est la solution que Dieu nous propose pour être heureux. Alors c'est vrai que pour comprendre le bonheur, on pourrait ouvrir l'évangile de Matthieu, se plonger dans le serment sur la montagne et lire les béatitudes. Mais je voudrais qu'on s'attarde sur un passage qu'on trouve dans le Pentateuque, le livre des Nombres. Histoire ce matin. Chacun des différents livres du Pentateuque aborde un thème principal. Par exemple, dans les Lévitiques, on va parler principalement de l'adoration. Et le livre des Nombres, lui, traite de la marche et du progrès spirituel, ou de l'absence de progrès et de l'errance. C'est pas un vieux livre complètement démodé, mais au contraire, il y a beaucoup d'applications pratiques pour le chrétien. Quand on est parent, on vient de le découvrir depuis quelque temps, on fait l'expérience de ces cris perçants et des pleurs des enfants qui nous cassent les oreilles. Mais c'est pas juste la tonalité aiguë qui est difficile à supporter. C'est aussi d'entendre les mécontentements, et puis pour les enfants plus grands aussi, les désobéissances. Et c'est ce qu'entendait Dieu, un peuple qui murmure contre lui, qui gémit, qui se plaint à chaque occasion. Donc dans le livre des Nombres, c'est Moïse qui en est l'auteur, il a été écrit aux alentours de 1406 avant Jésus-Christ, et dans ce passage, on peut voir que pour aller vers le bonheur, hein, savoir exactement où aller, et puis ensuite, il faut ben, y aller. Ça va de soi que si on s'arrête en cours de route, ça peut poser quelques petits problèmes et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Alors je resitue brièvement le contexte. Les Israélites sont sortis du pays d'Égypte, grâce à Dieu, et ils ont malheureusement erré dans le désert pendant 40 ans, à cause de leur incrédulité. Mais enfin maintenant, ils sont à deux doigts d'obtenir cette promesse. À deux doigts d'obtenir cette promesse qui leur a été promise depuis des générations du temps d'Abraham, après toutes ces années. Et là, ils vont prendre possession de cette terre promise. Et on va voir que quelques tribus du peuple d'Israël, Ruben, donc l'aîné, Gad et la demi-tribu orientale de Manassé, faisaient partie du peuple de Dieu, ont un plan pour trouver le bonheur plus rapidement que les autres. Donc on va lire Nombre 32, versets 1 à 32. Les descendants de Ruben et de Gad possédaient des troupeaux nombreux et importants. Ils constatèrent que la région de Yazer et le pays de Galaad convenaient bien à l'élevage du bétail. C'est pourquoi ils allèrent trouver Moïse, le prêtre Élazar, et les chefs de la communauté, ils leur dirent: les villes d'Ataroth, d'Ibon, font partie du territoire que les Israélites ont conquis à l'aide du Seigneur. La région convient à l'élevage du bétail, et nous avons justement des troupeaux. Et ils ajoutèrent: si tu es d'accord avec notre suggestion, Moïse, permets qu'on nous donne en partage cette région. Ne nous emmène pas de l'autre côté du Jourdain. Moïse leur répondit: comment? Vos compatriotes iraient se battre tandis que vous resteriez tranquillement ici? Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de se rendre dans le pays que le Seigneur leur a donné? Vos pères ont commis la même faute autrefois, lorsque de Kadès-Barnéa, je les ai envoyés explorer le pays de Canaan. Ils se sont rendus dans le vallon d'Échecol, ils ont exploré la région, et au retour, ils ont découragé les autres Israélites de se rendre dans le pays que le Seigneur leur avait par avance donné. Ainsi, continua Moïse, le Seigneur s'est mis en colère contre les Israélites et les a obligés à passer 40 ans dans le désert jusqu'à la disparition de toute la génération dont la conduite lui avait déplu. Et maintenant, bande de pécheurs, Vous voulez suivre les traces de vos pères et raviver la colère du Seigneur envers Israël? Si vous, hommes de Ruben et de Gad, vous êtes infidèles au Seigneur, il prolongera le séjour du peuple d'Israël dans le désert et vous aurez ainsi causé sa perte. » Ces hommes s'approchèrent encore de Moïse et lui dirent « Non, nous allons construire ici des enclos pour nos troupeaux et des villes fortifiées pour nos familles et ensuite nous nous empresserons de prendre les armes et nous passerons en tête des autres Israélites pour les mener dans le pays qui leur est attribué. Pendant ce temps, nos familles seront dans des villes fortifiées à l'abri des habitants de ce pays. Nous reviendrons chez nous seulement quand chaque Israélite sera installé sur cette terre. Nous renonçons à posséder, comme eux, des terres de l'autre côté du Jourdain si nous recevons notre territoire de ce côté, à l'est de la rivière. Eh bien, tenez votre promesse, leur dit Moïse. Prenez vos armes pour aller combattre sous les ordres du Seigneur, que tous les hommes ainsi équipés passent de l'autre côté du Jourdain, comme il le veut, qu'ils y restent jusqu'à ce que le Seigneur ait dépossédé ses ennemis et que le pays soit soumis à son autorité. Après quoi, vous pourrez rentrer chez vous, car vous serez sans reproche envers le Seigneur et envers les autres Israélites. Alors le pays situé de ce côté-ci du Jourdain vous appartiendra avec l'accord du Seigneur. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous commettrez un péché envers le Seigneur. Et vous en subirez les conséquences, sachez-le bien. Construisez des villes pour vos familles et des enclos pour vos moutons et vos chèvres, mais n'oubliez pas de tenir votre promesse. Nous ferons ce que tu viens de nous ordonner, répondirent les hommes de Ruben et de Gad. Nous laisserons nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et nos bêtes de somme ici dans les villes de Galaad. De notre côté, nous prendrons les armes et nous marcherons au combat sous les ordres du Seigneur, comme tu l'as dit. Malgré cet ordre de Dieu de s'installer au pays de la promesse, au-delà du Jourdain, on a deux tribus et demie qui préfèrent en rester là, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. On va voir une petite carte. Donc on a ici nos 12 tribus. Alors c'est vrai que la qualité est assez moyenne, mais on peut voir que ici nous avons donc le lac de Galilée, ici nous avons la mer Morte, et au milieu nous avons le Jourdain dont on parle ce matin, le fleuve du Jourdain. Ici donc on avait Canaan qui est la terre promise prévue pour le peuple d'Israël, et ici en Transjordanie on a Galaad, là où s'installe la demi-tribu orientale de Manassé. Orientale pourquoi? Parce que par rapport au Jourdain elle est à droite, Gad et Ruben. Pourquoi vouloir s'arrêter là? Parce que la région conquise convenait très bien à leur grand troupeau. On l'a lu au début de Nombre 32. Ils avaient très grands troupeaux et ces terres faisaient partie des meilleures de la Palestine. Et Dieu a permis de les conquérir puisqu'ils sont là. Ils étaient peut-être un petit peu fatigués de faire toute cette route avec leur famille. 40 ans dans le désert, quand même, c'est long. Et puis, il ne faut pas oublier que Ruben avait perdu 3000 hommes lors du dernier recensement, quand ils sont sortis d'Égypte à Sinaï. Et peut-être que là, il se dit aussi, allez, ça suffit, on arrête les frais. S'engager de nouveau dans une guerre. Puis en plus, les terrains vont être tirés au sort. Et c'est pas dit qu'ils puissent choisir le terrain qu'ils veuillent en premier. Manque de confiance en Dieu. Pourquoi vouloir se compliquer à être heureux si on est bien comme ça? Le but, finalement, c'est pas la recherche du bonheur. Et là, nos deux tribus et demie symbolisent les demi-engagements. En faire, mais pas trop. Et là, Moïse voit rouge. Au début, il se dit mince. C'est juste qu'ils se dégonflent et qu'ils veulent pas faire la guerre. Comme s'étaient dégonflés les espions à Kadès. Donc là, on voit, petite parenthèse, que Moïse tire des conclusions un petit peu hâtives. Mais Moïse se dit aussi, c'est à cause de ce manque de confiance en Dieu que leurs parents ont perdu 40 ans dans le désert. Et c'est justement parce que leurs parents n'ont pas voulu entrer en terre promise qu'ils ont été condamnés. Et là, il recommence. Vivre par la foi en Dieu, c'est pas toujours facile. Prendre des risques en fait partie et Ruben, lui, ne veut pas prendre ces risques. Donc, on va voir quelques exemples dans la Bible de personnages qui ont pris des risques. Noé a pris le risque de construire un bateau sur la terre ferme alors que tout le monde se moquait de lui. Élisée a dû s'opposer à Achab et Jézabel, seule contre 400 faux prophètes. Esther a pris le risque. Marie a pris le risque dans un contexte très difficile. Elle était enceinte et elle n'était pas mariée. Ananias prit le risque de celui qui terrorisait les chrétiens de l'époque, Saul, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Paul. Et nous aussi, dans tous les jours, on peut prendre. Découragement contagieux. De plus, dit Moïse, vous allez rester ici pendant que vos frères vont mener une attaque. Petite leçon pour nous, quand on va à l'église le dimanche matin, est-ce qu'on pense aussi qu'on peut encourager nos frères et sœurs par notre présence? Et on arrive à un compromis, volonté permissive de Dieu. Ruben et Gad, qui sentent la pression, acceptent de venir au combat, mais ils ne veulent pas lâcher leur petit terrain. La promesse de Dieu, on n'en veut pas. On va aller se battre, ok, mais une fois que tout est réglé, on revient ici. Ils n'avaient pas proposé cette solution au début. Ils avaient simplement dit, nous on veut se poser là. Et après quand Moïse leur dit, non, vous allez vous battre avec nous, ils disent, ok, on y va, mais on revient. Donc il y avait le plan de Dieu pour eux, la terre promise, mais eux disent, nous, on veut rester là. On veut rester en Galaad. Et là, on est dans le cas de la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas ma volonté pour toi. Ce n'est pas le meilleur que j'ai prévu pour toi. Mais puisque tu y tiens tant et parce que je t'aime, ok, je te permets de le faire. Et là, Moïse prend acte et leur redit trois fois leur engagement pour être sûr qu'ils tiennent. Trois fois, Moïse répète la promesse que ces hommes ont faite. Car Moïse connaît la faiblesse de l'homme. Ruben et Gad s'engagent et tiennent leur promesse. Et nous, est-ce qu'on tient nos promesses? Est-ce qu'on tient nos engagements devant Dieu, devant les hommes, devant nos enfants, devant nos conjoints? Quand on cherche à tenir ses promesses, on mesure beaucoup plus ce qu'on dit. Ça fait partie du témoignage. Comment est-ce qu'on veut que les gens nous croient sur des sujets difficiles, sur des sujets importants comme l'annonce de l'Évangile, si on n'est pas fiable sur les petits sujets? Et là, Ruben, qui était l'aîné et qui aurait dû montrer l'exemple, alors que c'est lui, au contraire, qui méprise le pays de la promesse. Et ils vont commencer à avoir des ennuis. Si Dieu avait demandé aux tribus de passer le Jourdain, de s'installer plus loin, c'est qu'il avait de bonnes raisons. La vallée du Jourdain, c'est une fente très grande de plus de 100 kilomètres. Au niveau géographique, c'est très intéressant. Donc on a Galaad, là où nos amis Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé veulent s'installer. On a donc notre lac de Galilée, la mer Morte et le fleuve du Jourdain. Et on voit cette fente, avec ici la terre promise. On voit quand même que ça fait une démarcation importante. Et on va voir aussi la photo de nos jours. Voilà. On ne voit pas très très bien, mais voilà, donc la vallée du Jourdain. Et leur bonheur ne fut que de courte durée. Deux siècles plus tard, dans le livre des conquêtes, Josué, on voit très vite l'isolement des tribus qui provoque un malentendu et une menace de guerre avec les autres Israélites. Dans Josué 22, versets 9 à 12. Les descendants de Ruben et de Gad, ainsi que les membres de la demi-tribu orientale de Manassé, se rendirent dans le pays de Galaad à leur arrivée en bordure du Jourdain. Alors qu'ils étaient encore dans le pays de Canaan, ils construisirent un autel d'aspect impressionnant près de la rivière. On vint l'annoncer aux autres Israélites. À cette nouvelle, les Israélites se rassemblèrent tous à Silo pour aller attaquer les tribus orientales. C'est dans les circonstances difficiles qu'on voit le vrai caractère des gens. Ici, on va voir le comportement typique de chrétiens à moitié engagés. Donc voici leur réponse. Le Seigneur est le Dieu suprême. Oui, il est le Dieu suprême et il agit ainsi. Là, ils ont le mot Dieu à la bouche. Nous avons agi ainsi car nous avions peur que, dans l'avenir, vos descendants disent aux nôtres, quel lien y a-t-il entre vous et le Seigneur, le Dieu d'Israël? Là, ils accusent les autres tribus. Le Seigneur lui-même a placé le Jourdain comme frontière entre nous et vous, gens de Ruben et de Gad. Si on se rappelle bien, c'est eux qui voulaient aller justement en Galaad. Et là, finalement, ils ont trop d'orgueil, ils n'assument pas leur faute. Non, vous n'avez aucun droit à l'égard du Seigneur. Ainsi, vos descendants pourraient inciter les nôtres à ne plus adorer le Seigneur. Là, de nouveau, ils accusent les autres. Nous voulons seulement que cet autel témoigne du droit que nous avons de rendre un culte au Seigneur par nos sacrifices complets. Ils veulent adorer Dieu à leur manière. Je ne pense pas qu'ils aient fait ça avec une mauvaise intention. Peut-être simplement qu'ils voulaient donner des repères à leur famille. Ils reconnaissent la valeur du tabernacle, mais ils en restent éloignés. veillons nous aussi à ne pas transmettre une simple pratique religieuse. Mais la vraie raison, c'est qu'ils ont agi par peur. Ils avaient tout pour être heureux. Retour victorieux d'une guerre de Satan. Et pourtant, ils vivent par la peur et non par la foi. Peur de ne pas avoir de quoi nourrir leurs troupeaux, leur famille dans la terre promise. Et nous aussi, souvent, on peut avoir certaines peurs. Peur de la séparation, peur du chômage, peur de l'avenir, peur des autres. Et Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Mais là, la tribu de Ruben et de Gad ne craignait pas Dieu. Ils craignaient beaucoup de choses, mais pas Dieu. Ils ont oublié que la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, et que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et cette peur, cette inquiétude entraîne le matérialisme, l'amour des richesses. Peur de perdre ce qu'on a, peur de se faire voler. En l'occurrence, pour les tribus de Ruben et de Gad, ils disposaient de troupeaux trop gros. Pas envie de les perdre ou de les partager. Ils avaient enfin trouvé un lieu propre pour leurs troupeaux, un monde habitable dans lequel le chrétien trouve une place pour sa fortune, ses occupations, sa famille, ses plaisirs. Une vie où il semble qu'il ne manque rien, sauf finalement l'essentiel, la présence de Dieu. Et un manque de solidarité aussi avec les tribus. Retour sur de mauvais travers du début. Comme Moïse l'avait prévu, la recherche du bonheur personnel de Ruben et Gad les a isolés des autres. Et plus tard, dans le livre des défaites, juge, ce que Moïse avait dit arriva. Et Ruben refusa de prendre part à une guerre nationale contre Sisera, le chef de l'armée cananéen. Déborah se plaindra de l'attitude de Ruben qui n'y participera pas. Et on peut lire dans Juges 5, versets 15 à 16. Les chefs d'Issacar ont rejoint Déborah. Les gens d'Issacar, fidèles à Barak, l'ont rejoint rapidement dans la plaine. Mais, dans les clans de Ruben, on a discuté pendant longtemps. Vous êtes restés assis entre deux parcs à écouter les bergers jouant de la flûte près des troupeaux. Pourquoi donc ? Oui, dans les clans de Ruben, on a discuté pendant longtemps. Vous restez là tranquille à discuter pendant que vos frères sont au combat ? Et là, Dieu permettra que Sisera, donc le chef ennemi, soit tué par Yaël, la femme d'un étranger héber le Kenyan. Et Dieu dira, béni soit entre les femmes Yaël, femme de Héber le Kenyan. D'ailleurs, en parenthèse, la seule femme qui a reçu une louange comparable, c'est Marie, la mère de Jésus. Et une femme fait mieux que la tribu tout entière de Ruben et de Gad. Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés chez eux. Ne rien faire aussi est un péché. Le non-entretien de la relation avec Dieu entraîne immanquablement une perte d'identité nationale. La solidarité entre les tribus diminue dans la mesure où les alliances avec les peuples alentours augmentent. Quand on oublie notre identité en Christ, on essaie de la trouver ailleurs. Et on voit que les tribus qui sont les premières à rompre l'unité nationale sont celles qui se sont trop vite contentées d'un héritage en Galaad ou qui ont fait des alliances avec d'autres habitants, Ruben en tête. Et Dieu avait prévenu qu'en cas de désobéissance ou d'abandon de leurs frères, sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, verset 23. Quand on n'avance pas, on recule. Et là, Ruben est en train de reculer. Si Dieu demandait de passer le Jourdain, c'est qu'il avait des raisons. Les terres à l'est du Jourdain avaient un défaut majeur qui était l'absence de frontières naturelles. On l'a vu tout à l'heure. Et qu'elles n'avaient pas voulu franchir. En plus d'un certain isolement par rapport aux autres tribus. Et pas seulement isolement géographique. Du temps de Samuel, c'est la demi-tribu qui va être attaquée cette fois. Et elle va demander le secours des autres. Un petit peu gonflé quand même. Là, on est en 1050 avant Jésus-Christ, 4 siècles après Moïse. 1 Samuel 11, versets 1 à 4. Naac, le roi des Ammonites, vint assiéger la ville de Yabek en Galaad. Les habitants de Yabek lui dirent, « Passe un accord avec nous, nous sommes prêts à nous soumettre. »« Bien, répondit le roi, j'accepte de conclure un accord avec vous, mais à cette condition, je crèverai l'œil droit à chacun de vous, pour humilier tout le peuple d'Israël. » Les anciens de la ville reprirent, « Accorde-nous un délai de 7 jours. Nous allons envoyer des messagers dans tout le territoire d'Israël. Si personne ne vient à notre secours, nous nous rendrons à toi. » Les messagers se rendirent à Gibéa, la ville de Saül, et racontèrent aux gens ce qui se passait. Tous les habitants pleurèrent abondamment. Naac, en hébreu, veut dire serpent. Et c'est ce même terme qui est employé pour parler du serpent qui a causé la chute d'Adam et Ève. Et Satan attaque les isolés, ceux qui sont isolés du troupeau. Et si on se tient à distance de l'Église, des chrétiens, de Dieu, ben on est vulnérable et on tombe facilement. J'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse sur les Ammonites, puisqu'il y a une ironie de l'histoire. Les Rubénites se sont trouvés en face des Moabites et des Ammonites. Donc on voit ici la demi-tribu de Manassé, Gad et Ruben. Ici, on a les Ammonites et les Moabites. Mais qui sont-ils, ces Moabites et ces Ammonites? Les descendants de Lot. Lot, qui avait aussi fait un mauvais choix, il a choisi la plaine fertile, de dresser des tentes jusqu'à Sodome, de marier ses filles avec des locaux. Résultat, il a tout perdu, comme Ruben. Abraham a dû aller le sauver in extremis parce qu'il avait été enlevé, avec en prime des soucis, des souffrances, perdu ses enfants, sa femme, mauvaise habitude de Sodome, inceste de ses filles. Les deux filles incestueuses de Lot, vous savez, dans la grotte, il y en a une qui a fait les Moabites et l'autre, elle a fait les Ammonites. Et c'est ces mêmes tribus qui attaquent maintenant Ruben et Gad. Un autre passage assez intéressant qu'on peut lire dans 2 Pierre 2, verset 6, et qui nous parle de Lot, pour parler un petit peu du lieu dans lequel on se trouve, de l'atmosphère dans laquelle on se trouve, qui peut nous influencer et nous inciter à faire des compromis. « Car ce juste, donc on parle de Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait en effet jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. » Au temps des rois, on apprend que Ramoth, en Galaad, la demi-tribu de Manassé, est tombée aux mains du roi de Syrie. Donc ne le prenez pas. En 1 Roi 22, versets 2 et 3, la troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous ? Et pourtant nous hésitons à la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et là, coup de grâce, 7 siècles après Moïse, les tribus de Ruben, Gad et Manassé, qui étaient les premières à avoir choisi leur terrain eux-mêmes, seront les premières à être déportées par les Assyriens. Là, on va prendre donc 1 Chronique 5, verset 26. Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Pul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgath-Pilnéser, roi d'Assyrie. Et Tilgath-Pilnéser emmena captifs les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il les conduisit à Chalak, à Chabor, à Ara et au fleuve de Gozan, où ils sont demeurés jusqu'à ce jour. Bilan de la fin de tribu qui avait un cœur partagé. Ruben, Gad et cette demi-tribu de Manassé avaient choisi le bonheur à court terme. Et ça aboutit à la ruine. Est-ce que ça ne nous rappelle pas une fable, une comptine, peut-être de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi? Quelqu'un qui avait voulu choisir le bonheur à court terme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quel était le problème de fond de Ruben? Jacob, avant de mourir, quand il a béni Ruben, il a dit « Tu es un torrent impétueux. » Genèse 49, verset 24. « De l'eau agitée. » Et plus loin, dans le Nouveau Testament, Jacques nous dit dans son épître que « Celui qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. » Ruben doutait de Dieu, manquait de foi. Voilà le problème. Pas confiance en Dieu. Une des armes préférées de Satan, c'est semer le doute, nous faire sortir du terrain de la promesse. Dieu a-t-il réellement dit ? Le bonheur, ce n'est pas des circonstances agréables, des biens matériels, de bonnes relations, un joli physique. Notre société nous fait croire que ces choses que nous n'avons pas sont justement celles dont nous avons besoin pour être heureux. Notre look, notre compte en banque bien rempli. Et nous, aujourd'hui, qui vivons dans le pays de Gex, peut-être qu'on a une situation financière relativement confortable, mais sur quoi est-ce qu'on veut viser à court terme ou bien est-ce qu'on veut investir ? Investir, mais dans l'immobilier céleste. Si on cherche vraiment le bonheur, faisons confiance à Dieu. C'est là qu'on sera vraiment heureux. Psaume 112, verset 1. Heureux l'homme qui reconnaît l'autorité du Seigneur et prend plaisir à faire ce qu'il demande. On a un Dieu juste, mais aussi un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne. Et dans le désert, le peuple a erré pendant 40 ans, ok, mais il ne l'a pas achevé là-bas. Il en a fait sortir, il l'a restauré, il lui a donné des victoires par la suite. Et il veut nous donner aujourd'hui ces victoires. On est invité à prendre. Mais comment faire pour s'approprier cet héritage, ces victoires? On doit placer notre confiance en Dieu. On doit aller au-delà du Jourdain, là où on n'a pas de visibilité. Pas de visibilité pourquoi ? Parce qu'il faut placer sa confiance en Dieu uniquement. Allons vivre dans cette terre promise, là où est la présence de Dieu. Et je vais terminer sur ce verset, de Nombre 14, verset 31, qui nous dit « Bienheureux sont ceux qui, comme les petits-enfants sortis d'Égypte, sont entrés dans le pays de Canaan avec Josué et Caleb. » Et je vais terminer par la prière. Et puis je vous invite à un petit moment de recueillement. Seigneur, merci parce que c'est un petit peu presque obsolète d'une autre époque. Seigneur, il est tellement actuel. Merci parce que ce peuple d'Israël qui a parcouru toutes ces choses-là, duquel on a ces écrits, on voit finalement que ces comportements humains qu'ils ont eus, c'est ces mêmes comportements qu'on a nous aujourd'hui. Et on veut te supplier, Seigneur, de nous aider à garder cette confiance en toi uniquement pour qu'on puisse s'approprier cet héritage, Seigneur, pour qu'on puisse vivre cette promesse. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu juste. Tu ne permets pas le péché, Seigneur, mais tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu qui fait grâce. Et tu veux nous relever à chaque fois qu'on tombe, Seigneur. Merci parce qu'on peut compter sur toi. Amen.
Merci à chacun pour ce que nous avons entendu ce matin. Je partage avec vous les annonces de la semaine. Alors, il y a une petite erreur. Jeudi, la chorale se retrouve à 20h. Samedi, il n'y a pas de cross-training. Samedi, c'est donc la reprise du groupe de jeunes. Waouh ! Dimanche prochain, on a le thé café à 9h30. Alors, il y a une nouvelle liste d'inscription pour préparer le thé café qui a été mise ce matin au fond de la salle. Alors voilà, merci de bien vouloir prendre en main peut-être un dimanche ou un demi-dimanche, partager avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, il n'y a encore personne pour dimanche prochain. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de commencer. On peut penser à Brian et Hélène qui sont avec nous aujourd'hui, mais qui partent demain pour Nice. Que Dieu les accompagne, que Dieu vous accompagne. Qu'il vous prépare aussi, qu'il prépare aussi les médecins. Brian a rendez-vous, je crois, mardi déjà. Voilà, que Dieu vous précède sur cette nouvelle étape qui s'ouvre pour vous. Soyez encore bénis. On veut penser aussi à Floriane, qui est là ce matin avec nous, et qui va prochainement repartir pour 2 ans avec Jeunesse en Mission. Et puis au niveau du programme, pensons aussi donc le 18 septembre, dimanche 18 septembre, on aura des baptêmes ici. Alors voilà, comme j'ai déjà dit dimanche passé, c'est important de réserver cette date pour venir, pour participer, pour se réjouir avec ceux qui s'engagent, ceux qui témoignent aussi de leur engagement. Et puis prévoyez aussi un petit peu plus long que le temps du culte, parce qu'il y aura après un apéritif dînatoire. Depuis plusieurs semaines, on vous demandait de penser à Loulou, qui était en fin de vie. Loulou est parti, il est décédé mercredi, à l'âge de 93 ans. La cérémonie d'adieu aura lieu mercredi prochain, donc mercredi 31, à 15h, à l'église de Crosswood, à Ferney-Voltaire. Nous pensons à la famille, à ceux qui restent, bien sûr, tout particulièrement à Johanna, Franck, leurs enfants. Et c'est vrai que nous vous remettons dans vos prières, nous pensons vraiment bien à vous. Continuons de penser à Roland. Roland a eu un rendez-vous avec son cardiologue mardi passé, donc à Annemasse. Puis c'était pas simple parce que sa cardiologue lui disait de reprendre le travail alors qu'il est toujours très fatigué, alors qu'il est faible. Pour le coup, il a recontacté un médecin qui est à la retraite, François Ribben, qui venait ici dans l'église il y a quelques années, qui était son médecin généraliste, avec qui il avait gardé un bon contact. François a pris du temps pour voir sa situation. Il lui a conseillé de contacter un autre cardiologue. Donc Roland a maintenant un nouveau rendez-vous le 16 septembre à La Tour, à l'hôpital de La Tour, auprès d'un cardiologue que François Riben connaît bien. Alors voilà, une nouvelle étape, une nouvelle attente encore. Continuons de penser à Roland, Damaris. C'est pas toujours simple d'attendre, surtout quand on ne peut pas faire grand-chose de ses journées. Les journées sont pour le coup longues à passer. Voilà, on veut penser à lui. On veut penser aussi à Guylaine qui est parmi nous ce matin. Que Dieu t'accompagne, te fortifie, te renouvelle. Et elle soit aussi avec toi dans chaque étape de ta vie. Cette semaine, nous vous invitons à prier pour les chrétiens du Kazakhstan. Le Kazakhstan est un pays dans lequel la foi chrétienne n'est pas facile à vivre. Donc c'est le pays qui est tout en haut de l'image, le numéro 42. Voilà, prions pour ce pays et les chrétiens qui sont dans ce pays. S'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Ésaïe. Ésaïe 55, oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons épineux, poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie, poussera le myrte. Et cela conduira à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Amen. Voilà notre espérance. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche.